Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Créer un Festival épisode 7. Nous sommes de retour après l'été, nous sommes de retour toujours avec Christopher Bugeaud. Bonjour Christopher.
Salut Yann.
Alors, avec toi, avec moi et avec Didier Matédoré, on est en train de lancer bénévolement et associativement un festival de musique symphonique dédié aux œuvres de pop culture en Suisse romande, donc en Suisse francophone. Et à chaque épisode, eh bien, on vient vers vous pour vous raconter un petit peu les coulisses de la préparation, de la création, les petits ennuis, les grandes victoires également. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux choses principales. Tout d'abord, bah voilà, on est de retour après l'été, donc on va vous faire un petit point sur ce qui s'est passé durant ces deux mois de vacances, enfin vacances, tout est relatif. Et puis également parler de We Make It, puisque We Make It, c'est une solution de crowdfunding que nous allons utiliser.
Bien suisse.
Bien suisse, exactement, c'est la plus connue en Suisse. Et du coup, Chris, je vais te poser cette question tout de go. Pourquoi faire un crowdfunding sur We Make It pour le Cross Dreams Festival, pour nous dans notre cadre, pourquoi faire ?
Eh bien, tout d'abord, pour répondre à une problématique qu'on a, c'est que personne ne nous connaît. Et le fait de commencer, démarrer quelque chose, démarrer cette aventure qu'on cherche à vous faire partager, c'est que les pouvoirs publics, forcément, ne vous connaissent pas forcément. Et très clairement, on a rapidement compris que pour pas mal de subventions qu'on pouvait espérer avoir, eh bien, il fallait en quelque sorte faire d'abord nos preuves. Or, on avait quand même pas mal d'ambition déjà pour la première édition, parce que c'est sûr, si tu pars avec une première édition où vraiment tu es un peu trop light par rapport à ce que tu souhaites faire, finalement après c'est du temps perdu et c'est extrêmement compliqué finalement comme à fidéliser ton public sur ce que tu veux faire. Mm-hmm. Donc finalement il a fallu qu'on trouve un moyen pour remplacer un peu ces pouvoirs publics et donc à faire appel aux dons généreux de la population.
Pas que la population, hein, si vous venez de Belgique, de France, vous pouvez aussi.
Ça va être... Et particulièrement vraiment ceux qui sont touchés par ce qu'on fait, quoi, tout simplement.
Uh-huh.
Et de ce fait, pouvoir finalement organiser ce que moi j'appelle la partie culturelle. C'est que finalement, on a une partie vraiment où on est vraiment des vrais producteurs indépendants, on va faire un concert. J'ai envie de dire de ce qu'il y a de plus simple au niveau de la production, c'est-à-dire vous avez des coûts de production, vous avez une billetterie et votre billetterie doit égaliser vos coûts de production. Voilà.
Je précise quand même, tu dis un concert, on va faire plusieurs concerts.
Voilà. Je veux parler un peu schématiquement, mais c'est vrai. On en a trois, donc.
Voilà.
Mais même avec trois concerts, c'est pareil. C'est-à-dire, t'as trois concerts, donc trois billets différents, j'ai envie de dire. Et puis voilà, les billets doivent remplir sa tâche de nous donner de l'argent pour payer les coûts de production. Le problème, c'est que nous, on avait une ambition de base vraiment culturelle, avec l'idée d'avoir des conférences, d'avoir aussi la possibilité d'enregistrer ces conférences, et de partager avec le public qui viendrait tout cela. Et nous, c'était un aspect vraiment du projet qui était pour moi tout simplement essentiel. Donc, l'idée, ça a été de lancer ce We Make It pour justement en fait nous payer ces conférences.
Alors, c'est non seulement les conférences, mais c'est également les invités. À la fois les invités des conférences, mais aussi, si possible, si on atteint un certain niveau, et ce ne sera pas forcément un niveau évident à atteindre, je veux dire, ces gens-là souvent viennent de loin, des invités exceptionnels qui pourraient intervenir non seulement pendant les concerts, et également pendant les conférences, suivant leur niveau d'expertise, d'intérêt, pour la prise de parole, etc. Mais très franchement, avoir des invités prestigieux, c'est également un des objectifs. Mais de manière plus générale, tu l'as bien dit, c'est la partie culturelle, en fait, du Cross Dreams Festival qui se cache derrière ce We Make It. Oui. Toutefois aussi, et vraiment, c'est important que tu dises ça, parce que tu disais tout à l'heure, et tu disais en début d'explication sur le crowdfunding, c'est un moyen de se faire connaître. Et c'est très important malgré tout, surtout dans un pays comme la Suisse qui ne connaît pas énormément de campagnes participatives comme celle-là.
Oui, mais en fait, ça fait partie d'un process de communication. Je vais faire une petite aparté. Hier, très intéressante. C'est-à-dire qu'hier, en fait, je suis producteur indépendant, donc je coach ou je travaille directement. Bon, là, Cross Dreams, je le dirige. Donc là, c'est encore autre chose. Mais voilà. J'essaie de donner régulièrement des coups de main plus ou moins distants, on va dire, pour justement aider à ce que des productions se fassent. Et hier, j'avais un cas vraiment très intéressant. J'étais avec un programmateur Et bah, je souhaitais donc lui faire part avec justement les musiciens qui voulaient soutenir ce projet, faire ce projet, et ben essayer de, bah, de, voilà, de le motiver pour venir jouer dans sa salle. Et le problème, c'est que bah, c'est ce qu'il me disait, mais moi, voilà, moi je joue l'année prochaine tel nom, dans 2 ans je joue tel autre nom, dans 3 ans je joue tel autre nom, vous êtes qui? Et finalement, le vous êtes qui, c'est exactement ce dont nous, on doit essayer de s'occuper, sachant que quand on lancera le festival, il faudra déjà que le vous êtes qui ait déjà une réponse pour le public. Donc ouais. Finalement, effectivement, le We Make It est vraiment dans un grand process de communication. Et c'est un outil de communication pour moi, très clairement, où effectivement ça nous finance, mais aussi ça permet de nous d'avoir à un moment donné un petit output pour expliquer voilà, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et voilà, essayer de vraiment de convaincre finalement notre démarche auprès du public, d'autant plus qu'on a quand même quelque chose bah, qui sort des sentiers battus en Suisse, quelque chose de nouveau, à quelque chose, bah, on le voit, sur lequel il va falloir beaucoup travailler pour faire venir le public. Donc, donc voilà.
Alors, en ce qui concerne ce We Make It, j'ai 2 points encore que je veux évoquer avec toi. Et le premier, c'est les récompenses, parce qu'évidemment, on a parlé de l'objectif en général. On a parlé également de différents paliers qui pourraient être atteints et de ce que ces paliers permettraient de financer. Cependant, en ce qui concerne les récompenses, il faut être très clair sur quelque chose. Et ça, je vais vraiment prendre la parole sur le sujet. C'est un casse-tête incroyable. Et on a encore dû modifier certaines récompenses une semaine avant le lancement prévu du We Make It, oui. Qui sera d'ailleurs le moment où ce podcast sortira, puisqu'on essaie de le faire de manière un peu pertinente. Et du coup, le truc en fait très, très particulier par rapport à ça, c'est que ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire quand vous mettez en place ce type de campagne-là, c'est vous dire 2 choses qui sont vraiment extrêmement, extrêmement importantes. Premièrement, comment est-ce que j'apporte quelque chose qui a de la valeur aux gens et qui a le plus de valeur possible aux gens? Tout en faisant en sorte bah, de faire le plus de marge dessus, parce que le but n'est pas évidemment de tout dépenser dans la production de la récompense, mais de permettre de dégager de l'argent pour l'objectif qui est fixé. Oui. Et puis, d'autre part, comment est-ce que vous faites pour estimer les différents scénarios par rapport à ça? Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment lutté. Enfin, je veux dire, tu l'as vécu aux premières loges, Christopher. J'ai vraiment dû tenter plein de choses pour finir par comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire une foutue bonne estimation. J'y suis finalement arrivé il y a assez peu de temps, mais Dieu merci, encore dans la bonne laps de temps.
J'aimerais juste prendre la parole parce que là, oui. Comment dire? Je suis devant mon écran et là, je suis chaud, bouillant.
Vas-y.
Parce que, ouais, voilà, parce que là, il faut quand même le dire. Le pauvre Yann, hier, parce que là, effectivement, là, il rationalise et tout, il fait le malin, là, et tout, machin. Mais je vais vous dire qu'hier, il faisait pas le malin, le pauvre Yann. Je
sais pas si hier, j'avais l'impression d'avoir détruit tout l'effort, tu vois. Donc,
Je vous invite à regarder le tweet de Yann, donc Ink SHD, voilà, hein, si vous n'avez pas son Twitter.
Je vais le mettre sur la page de l'épisode.
Et regardez ce qu'il a posté le 6 octobre au soir. Vous allez voir, vous allez rire. Voilà, c'était des montagnes russes. Voilà, c'était exactement ça.
C'est ça. C'est... Oh mon Dieu, j'ai fait une énorme connerie. Réparons-la tout de suite. Mais c'est bien, on l'a réparé. Et du coup, ça m'a permis en fait de finalement comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire une estimation correcte de ce genre de choses. Et pour faire une estimation correcte de ce genre de choses et une estimation conservatrice, c'est-à-dire vraiment connaître le pire des cas possible, ce que vous devez faire en fait, c'est que vous devez vous imaginer qu'est-ce qui se passe si les personnes qui vont nous donner de l'argent nous donnent de l'argent. Enfin, comment dire, choisissent la récompense la moins avantageuse pour nous, celle qui nous permet le moins de marge. Et à partir de là, vous devez calculer en gros, d'accord, sur le We Make It, la cagnotte affichée va être de temps. Elle va par exemple être, vu que notre objectif là, notre premier objectif, qui n'est pas notre seul objectif, mais qui est l'objectif de base, il est de 6 000 francs. Si on atteint 6 000 francs, et si tout le monde, toutes les personnes qui nous aident à atteindre cet objectif de 6 000 francs prennent la récompense la moins avantageuse, combien nous, en vérité, on a de pognon, et qu'est-ce que ça nous permet de faire?
Oui, parce que toute la difficulté, c'est que finalement, par rapport, j'aimerais dire, au public, c'est-à-dire tu promets quelque chose, quoi.
Voilà.
C'est-à-dire que le problème, c'est que tu dis, voilà, si tu fais le truc, bah voilà, tu dis, bah on fait. Et puis, comme bah, forcément, on ne sait pas, nous, au niveau de la billetterie, ça a bien fonctionné. Si la billetterie, vraiment, bah finalement, ça fonctionne bien, on est les rois du pétrole et tout, machin, on n'aurait pas de problème parce qu'on pourrait transférer de l'argent, à la limite, sur...
sur ces activités qui sont financées et que ce soit des activités culturelles, exactement.
C'est ça. Mais si par exemple on voit qu'on est un peu limite, etc. et tout, on a intérêt à vraiment à ce que les conférences s'autofinancent avec le We Make It, si bien sûr on le réussit. Je pense qu'il faudra utiliser d'autres scénarios. Mais voilà. Et la difficulté, c'est effectivement, vous êtes à 100 francs près et vous devez étudier tous les scénarios.
Exactement.
Notamment, vous avez toujours finalement, par exemple, un lot. Vous allez avoir plus ou moins de bénéfices. Et naturellement, vous allez voir, si un jour vous devez faire un remake it ou si on a déjà fait, j'imagine que ceux qui en ont déjà fait ici doivent se dire « Ah oui, je l'ai vécu !» C'est que le problème, c'est que souvent les lots les plus intéressants, et je vous garantis que c'est le cas, ce sont ceux, comme par hasard, où vous faites le moins de bénéfices. Donc, si vous faites le moins de bénéfices, mécaniquement, ça signifie que ce que vous avez en vérité en bénéfice à la fin, quand vous avez enlevé les coûts de vos lots, à la fin, vous avez fait beaucoup moins de bénéfices que vous vouliez, et du coup, vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux.
En ayant promis quelque chose que vous ne pouvez pas.
Exactement.
Donc, c'est très bizarre. Ce qui signifie, en fait, puisque globalement, probablement que la pire option ne sera pas véritablement celle qui va arriver, ce sera probablement un mix de la meilleure et de la pire, en gros un mix de des récompenses qui rapportent le plus avec les récompenses qui rapportent le moins. On va se retrouver dans une situation où on ne sait pas, quand on va avoir la somme finale, on ne sait pas exactement combien on va recevoir, puisque de ça il va falloir déduire personne par personne ce que coûte la production de chaque récompense.
C'est ça.
Ce qui est quand même assez extraordinaire.
Mais enfin, il y a aussi une autre problématique également, c'est que en Suisse, alors je ne sais pas si c'est valable, je serais curieux de savoir si par exemple chez Kickstarter par exemple ou ou en France, je me souviens plus comment s'appellent les outils en France là, mais de manière générale, si
il y a Tipeee notamment, mais ça c'est beaucoup plus régulier.
C'est ça.
Il y a KissKissBankBank en France.
KissKissBankBank, ouais, c'est ça. Je l'ai sur le bout de la langue. Le bout de la bangue.
Non, mais pour un kiss, c'est bien de l'avoir sur le bout de la langue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui, c'est ça. Ouais. Je me disais, mais est-ce que c'est pareil? Parce qu'en Suisse, les gens de Remake It nous ont expliqué, tu te souviens, que en gros, les gens mettent en moyenne 120 francs.
Uh-huh.
Donc, ce que j'imagine, c'est que du coup, moi, ce que je t'ai tout de suite dit, Yann, c'est quand tu fais les offres, fais attention, il faut vraiment qu'on fasse très gaffe aux offres qui sont entre 100 et 150, tu vois, mécaniquement. Mm-hmm.
Donc, il faut que ce soit des choses qui soient intéressantes.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi une autre problématique, c'est-à-dire non seulement tu as la problématique du bénéfice, mais en plus, tu te dis, étant donné que les mecs, ils mettent entre 100 et 150 balles en moyenne, donc tu as intérêt vraiment à ce que tes lots soient non seulement intéressants, mais aussi que ces lots-là, finalement, t'assurent un certain bénéfice pour effectivement pouvoir après respecter ta promesse.
Je pensais pas aller sur ce terrain-là, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette gamme-là. Effectivement, et puis je voulais également relever autre chose dans les récompenses, il y en a une, il y a une récompense qui a littéralement une unité, il faut qu'on en parle, et elle est très très chère.
Oui.
Il faut qu'on parle de cette récompense pour un don de 5000 balles.
Oui.
Explique-moi ce que fait une cartouche de Super Mario Bros 3 sous blister exactement là-dedans.
Oui, alors ça c'est le master. Ça, c'est... Mais en fait, je vous explique, en fait j'avais un souvenir... que c'était il y a une dizaine d'années, mais c'était il y a 10 ans déjà, que j'avais trouvé dans le grenier de ma tante. Vous savez, on a tous une vieille tante, là, vous savez, la vieille tante qui a des trucs pas possibles dans son grenier. Vous savez, celle des fois aussi qui vous donne, quand elle meurt, vous avez jamais entendu parler de sa vie, qui vous donne un super héritage. Voilà, c'est un peu le même genre de topo avec elle. non, mais je déconne, j'adore ma tante, mais bon, bref. Mais toujours est-il qu'elle cache des trésors. Et il y a 10 ans, je farfouille sous sa vieille télé. Je me souviens, elle avait une vieille télé cathodique, mais vous savez, la télé cathodique, mais haut de gamme. Vous savez, je pense que c'était dans les 90. C'était la télé, tu vois, tu l'avais.
Celle qui allait dans une armoire pliante.
Ah ouais, mais c'était hyper profond. T'imagines, c'était la télé cathodique qui faisait genre 2 mètres de diagonale. Enfin, c'était un truc de barge. Et donc, à côté, il y avait plein de poussière. Je me souviens, j'avais trouvé, en fait, ce Mario 3. Donc sous blister, donc blister Nintendo, je sais pas si vous imaginez, c'est vraiment le blister officiel Nintendo. Et voilà, et je l'avais vu puis en état, mais alors nickel de chez nickel quoi. Et c'était il y a 10 ans. Et en fait, quand on cherchait un peu des lots, d'un coup je me suis rappelé de cette tante et je me suis dit, tiens, j'ai quand même appelé mon père pour lui demander si des fois si vraiment ce Mario existait toujours, parce que ce que je savais, c'est que en 10 ans, ma tante, elle n'a pas quand même déballé sa NES et, et jouait. Parce qu'en fait,
elle s'est dit, allez, on va se faire un petit Mario 3 sur la télé cathodique comme à la bonne époque.
C'est ça. Donc du coup, avec les déménagements, les machins, ça a peut-être été perdu. Et ben non. Ils ont, après avoir farfouillé cet été, mon père et ma tante, ils ont fini par trouver. Mm-hmm. Et donc ils ont trouvé cette pièce unique, et c'est vraiment une pièce unique, très clairement. Je crois pas qu'il y a d'autres mots que ça, c'est-à-dire qu'avant ils pourraient trouver un Super Mario Bros. 3 sous blister, c'est-à-dire qu'il y a encore même le petit truc Nintendo, le petit rond Nintendo qui cachette la boîte à l'intérieur, quoi.
Wow.
C'est ce que je disais à Yann, et je disais, mais Yann, t'avais même pas été conçu que ce jeu était déjà enfermé dans sa boîte, quoi.
C'est ça.
Donc voilà, donc c'est vraiment, non, c'est un lot de fou, et puis on s'est dit, bon, pff, voilà, un vrai collectionneur, peut-être qu'il va se taper un délire, il va mettre les 5000 balles. Voilà, c'était vraiment parce qu'on voulait vraiment avoir un lot vraiment XXL, comme c'est très bien d'avoir, je trouve, pour un Remake Kit, vraiment un lot d'exception. Et je pense que, ouais, voilà, celui-là, il remplit un peu sa fonction, quoi, par rapport à ce qu'on fait aussi, ça fait résonance aussi, quoi.
Exactement. Est-ce que tu peux, Christopher, nous dire deux mots de la vidéo d'introduction du Remake Kit? Car pour toute bonne, comment dire, collecte de fonds, il y a toujours une vidéo pour expliquer le projet.
Oui, alors effectivement, alors là, d'abord, il faut en aller ta remerciement, il faut qu'on remercie Moïse, hein. C'est ça son prénom.
Exactement.
Voilà, je vais pas dire de bêtises, parce que je me souviens que c'était un prénom biblique, et effectivement, je crois que toute son aide est tout autant biblique également, étant donné que, oui, en gros, il nous a prêté son studio, il nous a prêté toute son aide, toute sa gentillesse, tout son... Vous savez, des fois, quand vous faites des projets comme ça, vous tombez comme ça sur votre route, sur des personnes comme ça, qui viennent juste vous aider gratuitement, j'ai envie de dire, et juste avec le cœur. Et bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir, quoi. Vraiment. Et là, d'un coup, vous reprenez sens dans l'humanité, dans toutes ces choses-là. Et vraiment, ça donne le sourire, quoi, tout simplement. Et voilà, on a eu la chance de pouvoir organiser ça en studio. Alors, pour la petite histoire, le pauvre Yann, là.
Ah oui, alors, non, pour raconter cette anecdote-là aussi, parce qu'en fait, j'avais prévu tout un conducteur. J'avais prévu vraiment trois paragraphes de texte, vraiment un truc génial. J'ai envoyé à tout le monde quelques jours à l'avance en disant, les mecs, révisez le truc, on va y aller, ça va être génial. Et puis, et puis le jour même, je demande, vous avez préparé le truc? Non. Ok, donc du coup, on a limite déchiré les papiers et fait en mode, bon, est-ce que tu te souviens globalement des points que tu dois faire? Est-ce que tu te souviens globalement des points que tu dois faire? Et en gros, on a improvisé là. Enfin, on a pas improvisé la vidéo, mais on est parti sur un certain nombre de points et ensuite on a, comment dire, oui, on a improvisé sur cette base, en fait, simplement.
Ouais, non, c'était très bien parce que du coup ça donnait un côté un peu plus vivant, donc ça c'était bien finalement que faire d'un texte. Donc finalement, du stress en fait que ça provoquait, et puis du fait qu'on se retrouve un peu comme des, en fait, pour être très franc, moi j'avais complètement oublié. Donc voilà, moi je suis allé là-bas, je dis c'est bon, on va me parler, moi je vais répondre, tout va bien, et puis d'un coup je dis merde, le texte.
Oui, c'est ça, c'est genre mais qui va te parler, qui va te répondre?
Donc après un premier essai un peu catastrophique, Yann il me regarde, il dit bon, écoute, je vais faire mon job de journaliste, après tout il fait des études pour ça, le cher Yann, hein. Donc il a été en mode one again, et il interview, et puis finalement ça a été très bien parce que du coup, bon, en même temps on savait ce qu'on avait à dire, et puis on sait exactement ce qu'on veut faire par rapport à tout ça, donc c'est bien passé. Et voilà, c'était assez rigolo. Et puis du coup, après, donc notre cher Moïse, qu'on remercie encore, nous a donné en fait alors une super piste audio, une super piste vidéo, que toi après tu as bien gentiment et très bien fait d'ailleurs ce petit montage.
Ça se voit dans la vidéo d'ailleurs, mais la qualité du matos de Moïse est assez incroyable. Alors non seulement il nous a prêté un studio qui a une valeur mais voilà, incroyable, et en plus il sait s'en servir extrêmement bien. À un tel point que le truc a vraiment une qualité, enfin, folle, simplement folle. Je veux dire, on se met à enregistrer une vidéo, le mec fait « Ok, je sors de l'éclairage », moi je suis là « Cool
!» Ouais, et puis non, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type parce qu'on a appris à le découvrir finalement. Uh-huh. Et ce mec-là, en fait, alors pour ceux qui viennent de Suisse, il travaille en fait au Mediamarkt de Crissier. Ah. Et il est spécialiste Mac là-bas. Et donc le mec, en fait, c'est, comment dire, c'est un peu un Batman, quoi. C'est-à-dire que le mec, la journée, en fait, il fait son job représentant de Mac, en fait, d'Apple. Uh-huh. Et le soir, en fait, il met sa cape de producteur, de technicien enregistreur, finalement, de musicien. Et il fait ça le soir, la nuit, quoi. Donc, et il m'impressionne, quoi, vraiment.
Il faut préciser également, la première impression qu'on a eue de lui, c'était lui qui nous ouvrait la porte avec, non pas deux, mais un AirPod d'Apple dans l'oreille, en mode businessman extrêmement pressé. ce qui était extrêmement chic également.
Ouais, ça, non, il a la classe, Moïse. Hein.
Exactement. Donc voilà, c'est Louis Mekit, il est lancé à l'heure où vous écoutez ce podcast. Si ça vous plaît de nous aider, n'hésitez pas. Sinon, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, nous, on fait ça pour pouvoir financer l'aspect culturel, pour pouvoir également pousser le festival dans l'état d'esprit, dans le zeitgeist suisse romand. On espère que ça récoltera les effets escomptés. Et puis derrière, on a fait tout en œuvre, on a fait le maximum en tout cas qu'on peut pour assurer les choses. Ce qu'il faut quand même repréciser, c'est quand on fait ce genre de projet-là, il n'y a jamais de bon ordre, et notamment s'il concerne le pognon.
Ouais.
Il n'y a jamais de moment où vous vous dites c'est absolument certain et ça va marcher à 100%. Vous pouvez faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire faire en sorte de s'assurer les meilleures conditions possibles, dans les meilleures circonstances possibles, avec les calculs les plus conservateurs possibles pour avoir le plus de chances de, en observant également ce que fait la concurrence et en se disant d'accord, si on fait deux tiers de ce qu'ils font eux, on va y arriver. Ce genre de réflexion. Cependant, évidemment, vous n'êtes jamais à l'abri d'une catastrophe. Dans un sens comme dans un autre. Donc voilà, après, il y a aussi une part de croisement de doigts. Mais enfin, voilà, on y met un effort et on y met, un courage assez important. Et on espère que ce sera payant et on espère que ça vous intéressera, bien évidemment.
Alors justement, en fait, tout cela, en fait, c'est dans un processus de communication qui va aboutir jusqu'à décembre.
Ouais.
Et c'était juste un peu pour faire un peu de reprendre un peu d'altitude, parce que là, c'est sûr que nous, en fait, le gros topic qu'on voulait vous parler, vous avez bien compris, sur cet Oubli Mes Kits, et puis quelque part vous aider aussi, parce qu'on s'était dit, bah tiens, si un jour quelqu'un, parce que l'idée toujours de ce podcast, c'est aussi de se dire, bah tiens, si un mec un jour veut faire un peu un projet comme ça, bah voilà, que à la limite notre expérience puisse l'aider, nous on serait très heureux. Encore une fois, si vous nous aidez pour Oubli Mes Kits, c'est très cool pour nous, mais vraiment c'est pas ça l'objectif, encore une fois, de ce podcast. Comme je vous ai dit, c'est une partie du plan de com, en fait, où finalement, nous, là, maintenant, on est dans une fusée qui va, en gros, se mettre en orbite. On a dit quand c'est la conférence de presse, c'est le 13 décembre, c'est ça on avait...
C'est le 13 décembre, ouais. Normalement, sauf changement de dernière minute, évidemment. Là, on enregistre ce podcast en début octobre, donc il peut encore se passer des choses. Mais c'est ce qu'on a dans les plans. Cette conférence de presse, elle sera bien évidemment publique. Donc, si vous êtes en Suisse romande, et je pense particulièrement à Lausanne, il y aura possibilité de venir nous voir et de venir voir ce qu'on aura à présenter, à annoncer.
Ça sera fixe image, donc si jamais. Voilà.
Et je le dis à tous les professionnels et à tous les journalistes qui écoutent ce podcast, je sais qu'il y en a, donc n'hésitez pas à noter la date déjà de manière préventive.
Et on va essayer de faire un direct aussi, je pense.
Oui.
On va essayer de faire un direct, je pense aussi.
On va essayer notamment de faire un Facebook Live et ce genre de choses pour pouvoir l'apporter aux gens qui ne pourront pas être sur place et également trouver un moyen de l'archiver. Peut-être même ce qu'on pourrait faire, ce serait l'enregistrer en audio et le commenter ici en re-racontant ce qui s'est passé avant, pendant et après. Ouais. Et ça pourrait être un moyen intéressant de revivre un petit peu ça et de parler des coulisses aussi de ce genre de dispositif. Oui, vas-y.
Alors, excuse-moi, donc, je voulais juste finir par rapport à cet aspect-là des choses.
Bah, je voulais continuer dessus aussi, donc vas-y.
Ah, alors excuse-moi, alors moi,
En fait, j'ai la timeline sous les yeux, si tu veux.
Oui, d'accord. Bon,
donc en fait, il y a beaucoup de. À partir de maintenant, il y a beaucoup de construction, en fait, qui va se passer en termes de création de visuels, notamment, de construction de dossiers de presse supplémentaires ou d'amélioration de dossiers de presse actuels. Il y a également. Toute la fusée, tu le disais, hein, qui revient par rapport à la première vague de communication, qui est en fait liée à quelque chose d'encore plus grand, Christopher.
Oui. Hein? C'est-à-dire.
Non, tu veux pas le dire.
Par rapport à la fusée, c'est-à-dire.
Attends, bah oui, bah à quoi ça aboutit cette conférence de presse?
Ah bah l'ensemble de la billetterie.
Voilà.
Ah oui, c'est là où tu vas venir. Ah oui, oui, d'accord.
Ah bah... oui, il y a un moment où on va vendre les billets pour les concerts, oui.
J'ai perdu le fil, du coup. Oui, effectivement, on va aboutir à la lance, on a distribué. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, là, on a toute l'étape de communication dont fait partie Oubli Mes Kits. Là, on va créer, effectivement, tout ce qui concerne les visuels. On va finir la programmation, si c'est un truc tout bête. Là, elle est à, j'ai envie de dire, 80%. Voilà, on a un spectacle de gala où on essaye un petit peu là de régler certaines choses.
Quand ce sera fini, il faudra tellement qu'on parle de ça.
ça sera le gros sujet, vous verrez. Oui. En plus, c'est génial parce qu'il y a tout qui va vous péter à la gueule. C'est-à-dire, vous allez avoir 8 mois en gros de tractation. En fait, c'est tout mon job en fait, hein, parce que en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'on parle ? On parle beaucoup de ce que fait Yann, de ce que fait Didier.
Mais finalement, c'est moi qui monte le podcast, donc
tant mieux. Mais c'est vrai que la programmation, finalement, c'est des choses qui doivent malheureusement rester secrètes. Mais
oui.
On vous promet qu'on vous fera, vous expliquera un peu tout, comment ça s'est passé, etc. et tout.
Yes.
Quand on pourra annoncer tout ça. Uh-huh. Effectivement, donc en fait, le principe de cette conférence de presse, c'est, parce que moi j'ai repris un peu le fil, parce que là, du coup, j'étais un petit peu perdu dans mes pensées par rapport à ce que je voulais aussi vous raconter. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est, il va y avoir il va y avoir la conférence de presse, et en fait, juste après la conférence de presse, on va enchaîner avec, on va enchaîner avec l'ouverture de la billetterie. Voilà. Mmh. Donc nous, finalement, au bout du compte, on jette les dés. Et c'est-à-dire que nous, après, finalement, au bout du compte, on a fait notre part de notre taf. Après, on a eu le travail, bien sûr, commercial. Mais finalement, au bout du compte, j'ai envie de dire, on a fait 80% du travail. Après, c'est du travail au niveau de la technique et tout, qui reviendra, j'ai envie de dire, à l'automne prochain. Mais finalement, on a fait le gros du job à ce moment-là.
Ouais.
Et puis après, nous, il faudra qu'on croise tous les doigts de pied, de main, de la tête, enfin, je sais pas où est-ce qu'il y en a sur la tête, mais voilà, tous les doigts possibles qu'on peut imaginer pour que ça fonctionne et que les gens suivent et puis achètent nos billets.
Exactement. Donc voilà, ça c'est toute la période en fait qui va suivre jusqu'à la fin de l'année, sachant notamment en ce qui me concerne que ça va être beaucoup d'administratif, lire beaucoup de contrats, lire beaucoup de règlements, téléphoner à beaucoup d'institutions, tenter de coincer également d'autres demandes de subventions, même si pour l'instant, comme l'expliquait Christopher, hein, c'est difficile. Il faut qu'on se fasse un nom. Et outre plus, croiser également les doigts pour que les formalités continuent de se faire à vitesse raisonnable, je dirais. Et parfois c'est faisable, parfois c'est plus difficile. Toutefois, quand même, on a rencontré beaucoup de monde déjà au point de vue des formalités administratives. Certaines personnes qui sont, on va dire, très absorbées par leur travail et qui ont tendance à imaginer que tout le monde connaît la façon dont les choses se font chez eux. Et c'est un petit peu dommage parce que, comment dire, c'est parfois pas évident. Même si on a une expérience dans le domaine ou même si on a une expérience avec l'administration, c'est pas forcément évident d'un canton à l'autre, même parfois d'une commune à l'autre, d'une ville à l'autre, de connaître exactement comment les choses se passent. Et parfois on recommence de zéro. Et puis dans d'autres cas de figure, on a des gens absolument adorables qui vraiment ne rechignent pas à répondre au moindre doute qu'on peut avoir, parce que parfois, voilà, comme le contexte change énormément par rapport à de précédentes expériences, on a besoin d'être certain de ce qu'on fait, et du coup ça nous met dans une situation où on demande très poliment, est-ce que vous êtes sûr, etc., est-ce qu'on n'oublie rien, parce qu'on veut tout faire correctement. Simplement, on veut tout faire au regard de ce qu'exige à la fois la loi, les règlements, etc. Et c'est quelque chose où il faut être extrêmement prudent. Dernier point sur lequel on a un peu communiqué sur le site internet d'ailleurs, on a également profité de l'été, mon cher Christopher, pour parler à de potentiels partenaires. C'est en bonne marche d'ailleurs. Enfin,
oui,
voilà, on a fait beaucoup de rencontres, dans des bars d'ailleurs.
Oui, ah oui, dans les portées à ce niveau-là, oui, parce qu'il y a aussi tout le travail qui est en cours, que je tiens à souligner aussi de Didier, donc qui lui est en train de chercher justement des sponsors, des partenaires, etc. et tout, voilà. Mais effectivement, on a aussi d'autres types de partenaires où c'est plus des partenaires, j'ai envie de dire, presque artistiques, hein.
Oui,
ce dont tu parles, par exemple, c'est vraiment typiquement ça. Uh-huh. Et effectivement, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que quand, justement, moi j'aimerais revenir sur un point que tu disais tout à l'heure. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous faites de l'événementiel, parce que nous, c'est ce qu'on est un peu en train de découvrir, c'est qu'il faut faire très, très attention à l'endroit où vous allez. C'est-à-dire que le problème, c'est que des fois, vous pouvez avoir fait déjà, comme moi, dans mon cas, d'avoir fait beaucoup d'événements, d'organisations, de choses comme ça, dans certains lieux. Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous allez dans un autre lieu, en fait, ils ont tout plein d'autres habitudes, ils peuvent faire les choses complètement différemment. Donc voilà. Donc il faut vraiment avoir conscience que finalement, chaque lieu, j'ai envie de dire, chaque secteur, peut avoir, un peu ses habitudes et, ses habitudes, quoi. Et également, l'autre point moi, qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que ce qui est important, c'est justement pour se faire connaître.
Uh-huh.
L'autre point qui est vraiment très important, c'est d'essayer de nouer des partenaires avec des gens déjà connus. Et vraiment, c'est un point, il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense. C'est se dire, voilà, tu crées ton truc, t'es personne.
Ouais.
Et tu peux toujours trouver des gens, non seulement soit de bon cœur, ou soit des personnes simplement, qui finalement peuvent avoir un intérêt en fait à bosser avec toi. Et même si ces gens sont connus, sont installés, etc. Et tout, il faut essayer d'aller toquer ces personnes, il faut essayer d'aller les voir, essayer d'avoir beaucoup d'humilité, de dire voilà, on aimerait vous aider, on aimerait pouvoir arriver à faire quelque chose ensemble, est-ce que c'est possible? Et en fait, nous, c'est ce qu'on a, on est parti un peu de ce principe-là, et ça nous a permis de développer des partenaires super. Donc voilà.
Très bien. Et puis le dernier point que je voulais citer, c'était quand même, puisqu'on fait un petit peu de prospective également pour les années suivantes, avec des partenaires artistiques potentiels pour d'autres choses, point de surréalisme total où Didier, Christopher et moi-même étions au comptoir suisse. On s'était mis... On s'était mis, il y avait une grande attraction qui était une espèce d'attraction de karting virtuals avec des néons et des trucs pas possibles façon 80s. Et un peu proche de ça, c'était très reculé dans le comptoir suisse qui est donc une espèce de comment est-ce qu'on peut détruire comment est-ce qu'on peut donner le comptoir suisse en deux mots? C'est une foire, pour faire très simple, c'est une foire. Et c'est une foire qui, notamment cette année, avait toute une partie jeux vidéo.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la foire, cette foire, en fait, elle a un souci, c'est que finalement, la foire a un problème, un déficit d'image. C'est pour beaucoup de gens, en fait, cette foire est un peu c'est pas vrai, mais voilà. Et beaucoup de gens, cette image des gens, un peu des poilus qui arrivent là-bas pour aller boire et manger du saucisson, quoi, tu vois. Il y a toujours un peu cette image un peu affreuse, alors qu'en fait, ils montrent plein de choses, et ils montrent un peu les innovations, notamment, qui peuvent exister. Et voilà, justement, là, ils avaient mis un peu le package, justement, ils avaient développé tout un partenariat, justement, avec Nintendo. Notamment pour justement montrer c'était aussi autre chose le comptoir suisse.
Il y a une grande halle, il y avait une grande halle dédiée aux jeux vidéo et aux expériences interactives.
Incroyable.
Et juste à côté d'une énorme expérience de karting, il y avait un espèce de petit bar avec personne à ce moment-là. Oui. Et donc on est arrivé avec Didier, Christopher et moi-même, enfin c'était Didier qui tenait un stand pas loin, pour avoir une conversation sur les haut-parleurs du Mac. On a posé ça comme ça, on était je crois sur le wifi du comptoir suisse ou sur une connexion 4G, et on a tenu une conversation d'après une heure, d'à peu près une heure avec deux autres personnes, avec deux professionnels du milieu dans ce contexte-là, ce qui était assez surréaliste.
Oui, parce qu'en fait, toute la problématique qu'on a, c'est que nous, en fait, voilà, tous les trois, on a beaucoup, beaucoup d'activités l'un et l'autre. Mmh. Donc finalement, le seul moment qu'on a trouvé, en fait, c'était au comptoir suisse. Donc en même temps, ça t'a fait plaisir, parce que c'est pas la petite histoire. Parce que
oui, j'ai pu jouer à Mario Odyssey, oui, vous pouvez entendre tout ça dans la cartouche, d'ailleurs, voilà. Épisode 3.
Et donc, voilà, comme ça, vous faites la connexion, si vous écoutez un peu les différents podcasts de Yann, entre le rendez-vous et le test de Mario.
Bien, bien, bien. Bah, merci beaucoup, Chris. On se retrouve au prochain épisode de Créer un Festival. Créer un Festival, donc ce podcast, qui change un peu de régularité. On était toutes les deux semaines avant l'été. Là, étant donné à la fois le surplus de travail qu'on a par rapport au festival, je veux dire, on est entré depuis un petit moment dans les choses sérieuses. Et puis de l'autre côté, par rapport au fait qu'on a vraiment envie de construire des épisodes sur des thématiques spécifiques, par exemple là, sur le lancement du We Make It et sur le petit retour de l'été, en fait, on va vous faire un épisode à chaque fois qu'on a quelque chose d'important à discuter. Oui. À décrypter, à vous en montrer les coulisses. Donc voilà, le prochain épisode de Créer un Festival, dès qu'il y aura quelque chose d'important, on va essayer de viser un par mois, mais voilà, ça va être extrêmement dépendant en fait du contenu et de ce qu'on pourra vous apporter. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez appeler sur Skype le répondeur contact@crossdreamsfestival.ch et vous pourrez entendre votre voix dans le podcast et nous vous répondre. Vous pouvez également nous écrire sur les commentaires de l'émission, tout simplement, sur le site de Radio Kawa. Le festival, contrairement au podcast, n'est pas un projet de Radio Kawa, mais d'une association complètement différente, Cross Dreams Production. On sait que vous aimez notre transparence, donc on le précise, Radio Kawa et Cross Dreams sont des entités strictement distinctes, y compris, et je dirais même, surtout financièrement. Pour en savoir plus sur le festival, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @CrossDreamsFest sur Twitter et Facebook et vous inscrire à la newsletter sur crossdreamsfestival.ch. Et puis également, quand même, je le précise, le We Make It est là si jamais vous désirez nous donner un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas, c'est là et les récompenses sont belles. Allez, à très bientôt sur Radio Kawa dans Créer un Festival. Ciao, ciao.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolier, une émission Radio Kawa.
Radio Kawa.